Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez, en principe, la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite prêché avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour toute personne qui l'écoute.
Je vous invite à ouvrir vos Bibles. Dans la première épître à Timothée, nous entendrons plusieurs lectures et la première se fera dans 1 Timothée 3, les versets 8 à 13 qui sont la base de la prédication et quelques autres textes seront lus qui ont des liens avec ce texte-là. Donc ouvrez vos Bibles dans 1 Timothée 3 et nous entendrons les versets 8 à 13.
Alors 1 Timothée 3, 8 à 13. Les diacres aussi doivent être honnêtes. Éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère. S'ils sont sans reproche, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et leur propre maison, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Une seconde lecture dans Philippiens, Philippiens 1, verset 1. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, comme introduction à sa lettre. Et ensuite, nous avons un texte dans le livre des Actes, acte 6, et les versets 1 à 7. Acte 6, versets 1 à 7. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse et que nous chargerons de 7 emplois. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Et une dernière lecture dans le livre dans l'épître des Romains, chapitre 12 des Romains, les versets 4 à 8, Romains 12, « Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. » Jusqu'ici les lectures.
Merci pour les lectures. Quand nous sommes déshydratés, le corps peut commencer à dysfonctionner et même s'arrêter. En lisant la Bible sans le Saint-Esprit, eh bien nos pensées peuvent dysfonctionner et même ne rien capter. Nous avons vraiment besoin de l'œuvre de l'Esprit dans nos vies pour comprendre sa parole. Et c'est un privilège de lire la parole de Dieu. Alors peut-être que c'est une expression pour vous habituel quand on dit parole de Dieu. Mais j'aimerais que cette expression, quand on dit parole de Dieu, réveille en nous, en fait, un amour particulier. C'est celui qui nous aime le plus au monde qui nous parle. La parole de Dieu, de celui qui nous aime le plus au monde. Et lorsque nous lisons l'épître ou la lettre à Timothée, ce n'est pas simplement des mots que Paul envoie à son fils spirituel. C'est plus que cela. Parce que Dieu, il est capable, en fait, de passer ou d'utiliser une relation telle que celle-là pour nous transmettre sa parole. Donc, si le contexte d'écriture nous aide à comprendre quelques éléments de forme et la relation qui lie Paul à Timothée, n'oublions jamais que c'est Dieu qui nous parle par ses écrits. Le Saint-Esprit est assez puissant et sage pour conduire l'écriture de ces textes. C'est donc un privilège d'ouvrir la parole de Dieu ensemble. Et nous continuons à étudier 1 Timothée. Et si la dernière fois, Paul a parlé du rôle important dans l'Église des évêques, qui sont délégués par Christ pour enseigner et conduire l'Église, aujourd'hui, nous allons parler de ceux qui sont délégués par Christ pour la compassion, l'unité et le soutien. Ce sont les diacres. Et nous allons simplement suivre le texte biblique ici dans 1 Timothée 3 et nous laisser instruire. Donc on va commencer par le verset 8, puis on va déjà s'arrêter au premier mot pour se laisser instruire sur une définition. Un diacre, c'est quoi ? Puisque c'est le terme qu'on voit au verset 8. Ensuite, nous parlerons des critères qui aident l'Église à reconnaître un diacre. Puis nous ferons une petite réflexion sur le rôle et les tâches de diacre qui ne sont pas écrits dans 1 Timothée. Donc là, on ira dans d'autres textes bibliques. Et puis, nous prendrons quelques instants pour le verset 11 qui a fait couler beaucoup d'encre. De quelle femme parle-t-on ici dans ce texte ? Et nous terminerons par le verset 13 qui parle d'une récompense. Donc, si vous voulez les 5 points en 5 mots, pour aujourd'hui, c'est définition, critère, rôle, femme, récompense. C'est les 5 points qu'on aura, c'est ces 5 mots. Définition est le premier, et on va commencer par celui-là. Donc, si vous avez vos Bibles ouvertes dans 1 Timothée 3, c'est une bonne idée. Et si on regarde le verset 8, il commence par « Les diacres, pareillement, doivent être les diacres ». Là, j'aime pas trop faire de grec ensemble, mais là, on utilisera le terme « diakonos », puisque c'est le terme qui est utilisé ici. Hein. Je pense que c'est le seul que j'utilise aujourd'hui, mais comme ça, vous l'aurez avec vous, « diakonos ». En fait, 1 Timothée 3 et Philippiens 1:1 sont les deux seuls textes bibliques qui parlent clairement des diacres comme un groupe de personnes spécifiques parmi les croyants. C'est les deux seuls textes. Donc, 1 Timothée 3 et Philippiens 1:1 qui sont les deux seuls textes qui parlent clairement des diacres comme un groupe de personnes spécifiques parmi les croyants. En fait, le texte d'Actes 6, parce que c'est ça qui peut-être vous vient en tête, que nous allons voir, aussi aborder, ne donne pas le titre de diacre aux personnes choisies pour servir aux tables. Ils sont simplement appelés les 7. On le verra même plus tard, dans Actes 21, on voit que Paul parle de celui qui faisait partie des 7. Le terme qui est traduit par diacre dans 1 Timothée 3 et Philippiens 1:1 est un terme qui signifie simplement serviteur. Serviteur. Et dans la plupart des cas, il est traduit « serviteur ». En tout cas, dans la Bible de la Colombe, j'ai entendu avant, c'était la seconde 21, on commence à parler de « ministère ». Voilà, c'est les termes qu'on utilise. Je donne quelques exemples, en partant toujours de la Colombe. Dans 1 Timothée 4, 6, « En exposant cela aux frères, tu seras un bon serviteur ». Diakonos, ou un bon diacre, si on veut traduire le terme diacre, hein, du Christ Jésus, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Simplement, ce texte de 1 Timothée 4, 6, c'est Paul qui parle à Timothée. Et Timothée n'est certainement pas un diacre dans le sens de 1 Timothée 3 dans l'église d'Éphèse, mais un serviteur de Dieu qui enseigne la parole de Dieu. Voici ce que Paul dit encore dans 1 Timothée 1, 12. On a déjà vu ça ensemble. « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, le Christ Jésus, notre Seigneur, de ce qu'il m'a estimé fidèle en m'établissant dans la diaconia, donc dans le service, en m'établissant dans le service. » Paul était au service de Dieu, mais pas dans la diaconie, dans le, dans le sens de 1 Timothée 3. Ou encore Colossiens 1, 23 à 25 qui dit « Si vraiment vous demeurez dans la foi fondée et établie pour ne pas être emporté loin de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. » De nouveau, le même verbe qui arrive. « Je me réjouis maintenant de mes souffrances pour vous et que je supplie dans ma chair à ce qui manque, aux afflictions du Christ pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que je suis devenu serviteur. » De nouveau, le même mot, diakonos. « J'ai été chargé par Dieu de vous annoncer pleinement la parole de Dieu. » Toujours ce même terme de serviteur. Serviteur qui revient, de service. Et les traducteurs ayant remarqué que dans 1 Timothée 3 et Philippiens 1:1, Paul parle d'un groupe défini, ils ont inventé le mot diacre, hein, qui vient du terme diakonos. Mais en fait, tous les autres fois où ils voyaient ce mot, ben, ils écrivaient serviteur. Comme je l'ai dit, dans le reste du Nouveau Testament, c'est plutôt le terme serviteur, service, servir, et pas diacre, diaconat, ou diaconisé, ou diacré, si vous voulez, que l'on utilise. Cette petite réflexion sur le terme traduit par diacre nous aide à saisir un élément. C'est que l'idée générale de ce qu'est un diacre, c'est quelqu'un qui est au service. C'est quelqu'un qui est au service, et là j'ajoute, en suivant l'exemple de Christ. Donc l'idée générale de ce qu'est un diacre, ou du terme utilisé, c'est quelqu'un qui est au service en suivant l'exemple de Christ. Le diacre est au service en suivant l'exemple de Christ, qui d'ailleurs a clairement dit qu'il est venu pour servir. Voici deux textes qui plaident en cette faveur. Marc 1, 10, 45, qui dit « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, ou pour diaconiser, si vous voulez, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Ou dans Luc 22, 27, il dit « Car celui qui est plus grand, est-ce celui qui est à table ou celui qui sert ?» De nouveau le même terme. « N'est-ce pas celui qui est à table ? Moi, cependant, je suis venu au milieu de vous comme celui qui sert. » De nouveau la même notion. Donc ce qu'on a pu voir jusqu'ici, simplement avec ce terme traduit par diacre, le diacre est une personne au service qui suit l'exemple de Christ dans sa consécration. Donc le cœur du travail du diacre consiste à servir de manière sacrificielle pour le bien des autres. Et c'est contre-culturel, mes chers frères et sœurs. C'est contre-culturel. Et voici ce que dit un auteur, je vous le rapporte, je trouvais qu'il avait bien dit ça. « Alors que le monde crie « Impose-toi !» un diacre plein de zèle pour Dieu cherche à renoncer à lui-même. Alors que le monde dit « Sers tes propres désirs !» le diacre réfléchit à des façons de servir les autres. Alors que l'univers omniprésent des réseaux sociaux lui répète « Mets-toi en avant !» le diacre travaille dans l'ombre pour que d'autres remportent des victoires. Aucune culture de l'histoire a œuvré davantage que la nôtre pour inculquer une mentalité et diffuser des mantras si contraires à l'essence du travail diaconal. On est dans une culture qui a même de la peine à comprendre ce service diaconal. Quelqu'un qui se consacre, quelqu'un qui est prêt à faire des sacrifices pour les autres, c'est impensable. Nous comprenons aussi que ce que le diacre est appelé à vivre, c'est la vie chrétienne normale. C'est la vie chrétienne normale. Simplement, le diacre est rattaché aux anciens et à une fonction officiellement reconnue pour des tâches spécifiques. Paul, lorsqu'il donne des instructions à Tite, ça c'est dans les lettres suivantes, hein, dans une plus jeune église, ne parlera que des anciens ou des évêques. Il ne parlera pas des diacres à ce moment-là. Ce qui nous montre que pour qu'une église puisse se fonder et puisse vivre, il n'y a pas besoin de diacres. Les diacres ne sont pas un élément essentiel pour la constitution d'une église. Mais si le diacre n'est pas obligatoire pour qu'une église existe, comme nous le voyons dans la première église qui est fondée, lorsqu'une église grandit, le rôle des diacres devient important. C'est la raison pour laquelle nous avons ce texte de Actes 6 qui va nous aider à saisir le rôle qu'un auteur définit ainsi, je vous le dis. Le rôle de diacre ne doit pas être élevé à un conseil exécutif de pseudo-anciens. Il s'agit de servir et non de veiller sur le troupeau. Cependant, ne réduisons pas ce rôle aux seules personnes douées aux affaires ou aux bricoleurs avertis. Les diacres sont bien plus que cela. Ils forment une cavalerie influente de services, de serviteurs appelés par le roi et mandatés par son Église pour cibler et satisfaire à des besoins tangibles, pour protéger et promouvoir l'unité de l'Église, pour optimiser le ministère des anciens. Et ce faisant, ils contribuent à accélérer et à accomplir la mission de l'Église. Fin de citation. Et voici ce que dit un autre auteur pour ce que c'est un diacre. Comme ça, vous avez plusieurs vues, mais qui se rejoignent. Les diacres sont les assistants officiels des anciens. Les diacres sont les assistants officiels des anciens. Ils les aident le plus efficacement lorsqu'ils leur permettent de se consacrer à leurs tâches importantes, nourrir, conduire et protéger le troupeau de Dieu grâce à la parole, l'Écriture. Il est évident que le fait d'avoir des aides qualifiées permet aux anciens de mieux prendre soin de l'Église de Dieu, les garde d'un surmenage malsain et leur donne la liberté de se consacrer plus efficacement à la prière et au ministère de la parole. Fin de citation. Nous arrivons aussi à la fin de ce premier point qui parlait de la définition du diacre. Et nous voulons retenir qu'un diacre est quelqu'un qui, à la suite du grand serviteur qui n'a jamais existé, le plus grand serviteur qui n'a jamais existé, Jésus-Christ, se met au service de son Église. Voyons maintenant, au point 2, les critères. Les critères, ça sera les versets 8 à 10 et le verset 12. Donc, comme pour les évêques, comme on a fait la dernière fois, je vous propose de compter les critères que vous trouvez ici pour les diacres. Je vais relire ces quelques versets. Donc, les diacres, pareillement, doivent être respectables, éloignés de la duplicité, des excès de vin et des gains honteux. Qu'ils conservent le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les mette d'abord à l'épreuve et qu'ils exercent ensuite le diaconat, s'ils sont sans reproche. Verset 12. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. À combien de critères arrivez-vous ? Bon, pour ma part, j'en suis arrivé à 8. Et c'est le seul endroit dans la Bible où ces critères sont listés. Il n'y a pas d'autre endroit dans la Bible où on liste les critères du diacre. Or, il y a bien acte 6, où les 7 qui peuvent être considérés comme les premiers diacres de l'Église ont été choisis sur 3 critères. On a lu le texte avant. Hein, les 3 critères dans acte 6, c'était des hommes de qui l'on rend un bon témoignage, donc des hommes fiables, des hommes remplis d'esprit, donc qui sont soumis à Dieu, et des hommes remplis de sagesse, qui sont équipés pour le service. Alors, si vous vous souvenez des critères pour les évêques, ou que vous regardez dans votre Bible les versets qui sont juste avant ceux qu'on a lus maintenant, vous vous rendrez compte qu'ils sont très semblables. Il n'y a pas beaucoup de différence. Et s'il y avait encore un autre office dans l'Église, bon, il n'y en a pas là, mais les critères continueraient à être semblables. Pourquoi ? Parce que ce sont les critères de tous ceux qui sont en Christ, ayant reçu une nouvelle nature et qui sont appelés à vivre. Les critères ici soulignés sont liés à la tâche particulière demandée aux évêques et aux diacres. Pour les diacres, si on va un petit peu à travers ces 8 maintenant, rapidement, qui sera appelé à prendre soin, il est important qu'il soit digne de respect, que l'on puisse lui faire confiance. C'est pourquoi il doit être respectable. Le diacre pourrait être en lien avec des personnes dans le besoin. Il est donc très important qu'il sache tenir sa langue et qu'il tienne parole, qu'il ne joue pas un double jeu. C'est pourquoi il doit être éloigné de la duplicité. Le diacre pourrait être amené à trouver des solutions, à avoir les idées claires pour peser les intérêts et rester fidèle à ce que l'Église a décidé. C'est pourquoi il doit être éloigné des excès de vin. Le diacre peut se voir confier l'argent de l'Église, être responsable d'un budget pour un ministère de compassion ou de fonctionnement de l'Église. Afin de ne pas être tenté de se servir pour lui, il doit être donc éloigné des gains honteux. Le diacre, dans son action de compassion, va être un représentant de l'évangile de Jésus-Christ, le mystère révélé dans le Nouveau Testament qu'il va partager par son témoignage. Il doit donc conserver le ministère de la foi dans une conscience pure. Il arrivera que le diacre devra mettre à l'épreuve des personnes pour voir s'ils ont un besoin réel. Puisque quand on soutient des personnes, on ne donne pas juste comme ça. On regarde, est-ce qu'il y a vraiment un besoin de soutien ou non ? Donc c'est une mise à l'épreuve. Est-ce que les demandes sont motivées par des intentions justes ? Donc si le diacre doit faire cela, il doit essayer d'être capable de se mettre lui-même à l'épreuve pour donner une recommandation aux anciens ou à l'Église. Non. Donc il doit être capable de mettre les autres à l'épreuve. Et ainsi, il doit être lui-même capable d'être mis à l'épreuve. Il doit être prêt à se remettre en question et vivre d'une manière ouverte constamment. Mais comme un enfant de Dieu. Donc, ce n'est pas juste une fois quand il devient diacre qu'on fait ça, c'est quelque chose qui se vit habituellement. Le diacre aura des relations avec des personnes du sexe opposé. Il est important que sa manière de vivre sa sexualité soit juste et bonne devant Dieu. Il doit donc être mari d'une seule femme. Cela ne signifie pas qu'il doit être marié, mais qu'il doit être fidèle. Le diacre peut avoir à mettre de l'ordre dans l'Église, à diriger des tâches qui ont un impact sur toute la communauté. Il doit donc bien diriger ses enfants et sa propre maison. Comme je vous l'ai dit, ce sont tous des éléments que tout chrétien est appelé à vivre. Mais si tout chrétien, je prends l'illustration, est un footballeur amateur, tout chrétien n'est pas un footballeur professionnel. Un footballeur qui non seulement doit savoir marcher et courir comme tout le monde, mais il doit savoir faire vite, être capable de tenir longtemps pour être utile un match entier. Ce que tout le monde ne peut pas forcément faire. Il doit s'entraîner. J'aimerais faire un petit exercice maintenant avec vous. Je vais vous décrire la situation d'une personne et vous allez me dire si cette personne pourrait être diacre dans l'église. OK ? Alors, il s'appelle Ben. Rien à voir avec un Ben que vous pouvez connaître. Ben est entrepreneur dans le domaine de la construction. Quand le chauffe-eau de l'église est tombé en panne en plein hiver, un ancien l'a appelé. Ben l'a réparé. Quand le système de climatisation a cessé de fonctionner en plein été, c'est Ben qui a été appelé. Il n'y a rien que Ben ne puisse réparer, semble-t-il. Pour ce qui est de l'entretien du terrain et du bâtiment de l'église, son savoir-faire est inégalable. Ben devrait-il être diacre de son église ? On ne sait pas. C'est la bonne réponse. Parce qu'avec cette description, il n'y a aucun élément qu'on vient de voir dans 1 Timothée 3 auquel on peut répondre. On ne sait pas. Il y a une notion de fiabilité qui est déjà un petit peu là, qui peut amener à un élément respectable, peut-être, c'est vrai. Mais on ne sait pas. Donc il ne suffit pas seulement de savoir manier des outils, il doit manifester le caractère de Dieu dans ce qu'il fait. Il ne doit pas seulement être capable de manier des outils, il doit manifester le caractère de Dieu dans ce qu'il fait. Pour vivre ces critères, en fait, il faut les connaître et les pratiquer. Comme un footballeur apprend à dribbler, il apprend à tirer au but, à faire des passes, à les rattraper, etc. Alors pourquoi pas en famille, noter quelque part sur une feuille les critères des diacres et voir comment progresser dans chaque domaine. On peut en prendre un par semaine où on veut progresser. Vous savez, si nous voulons des évêques et des diacres demain, il faut commencer à les enseigner aux enfants dès aujourd'hui et s'entraîner et montrer l'exemple. Donc réfléchissons maintenant un peu au rôle. Là, on a vu des critères, hein, et ils sont dans le texte là, mais quel est le rôle ? Quelles sont ses tâches ? Et avant d'aller dans Acte 6, que nous allons faire maintenant, j'aimerais souligner que la Bible ne donne pas une liste de ce qu'un diacre doit faire. Il n'y a pas un texte qui parle officiellement de diacre avec les critères de 1 Timothée 3, puis ensuite qui donne toute une liste de ce qui est possible de faire. Non. Cela signifie qu'il y aura une grande variété de façons de vivre le diaconat. Et la seule chose qui me semble essentielle, et ça doit rester, si ça reste pas là, il y a un problème, c'est qu'il ne faut pas confondre le rôle d'évêque et de diacre, puisque Dieu nous donne justement ces deux rôles différents. Donc allons dans ce rôle. On va aller dans Acte 6. Vous pouvez garder un petit doigt dans 1 Timothée 3, revenir là dans Acte 6. On va le revoir ensemble. Et puis, ce texte ne nous donne pas tous les éléments de tous les diacres. Il nous donne simplement quelques indices. Et vous allez essayer de voir, quand je vous lis le texte, les trois principes que l'on trouve ici dans ce texte. Trois principes que l'on peut ressortir dans ce texte. Donc, Acte 6, 1 à 7. En ces jours-là, comme les disciples se multipliaient, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans le service quotidien. Alors, le mot service, là, c'est un terme comme diacre. Hein. C'est pourquoi, les douze convoquèrent alors les multitudes de disciples et dirent, « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes de qui l'on rende un bon témoignage, rempli de l'esprit et de sagesse, et que nous les chargeons de cet emploi. Pour nous, nous persévérerons dans la prière et dans le service de la parole. » Ce discours plut à toute la multitude et ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas, Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait, le nombre de disciples se multipliait, beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la loi. Pour quelles raisons ces hommes ont-ils été choisis ? C'est ce qui va nous aider à aller au principe. Pour quelles raisons ont-ils été choisis ? La première, c'est qu'il y avait des murmures et des risques de division dans l'Église. Ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est qu'il y avait des besoins. Il fallait prendre soin. Et troisième raison, c'est que les apôtres n'arrivaient pas à prendre soin de tous et continuer à prendre le temps nécessaire pour la prière et le service de la parole. Ça, c'est trois raisons que l'on voit ici. Et ça nous amène aux trois principes que l'on peut retirer ici. Le premier, c'est que ceux qui sont choisis, les personnes choisies, aident à l'unité de l'Église et font taire les murmures par leur service fidèle. Aident à l'unité de l'Église. Je vais devoir me retenir beaucoup dans cette prédication. J'ai peut-être trop étudié, j'ai trop de choses à dire. Mais ici, j'ai eu des témoignages d'églises où on a vu les diacres qui, tout à coup, prenaient position pour aider à ce que l'unité reste. C'est fabuleux. Deuxièmement, les personnes choisies ont un ministère de compassion envers des personnes dans le besoin. En l'occurrence, ici, c'était les veuves. Et troisièmement, la personne choisie sont des soutiens pour les anciens. Ainsi, là, les douze pouvaient continuer à vaquer à la prière et à l'enseignement de la parole. Voici comment des auteurs résument les implications de Acte 6. Je vous cite. « Les disciples s'occupent des besoins matériels et financiers de l'Église. » Je reprends, parce que je me suis trompé de mot. C'est les diacres. J'ai dit disciples. C'est des disciples, les diacres. Je reprends. « Les diacres s'occupent des besoins matériels et financiers de l'Église et le font de manière à prévenir les divisions, à encourager l'unité de la parole et à soutenir la direction des anciens. Sans ce service pratique des diacres, les anciens ne seraient pas libres pour vaquer à la prière et au ministère de la parole. » Ça, c'est fort ici. Hein. « Sans ce service pratique des diacres, les anciens ne seraient pas libres pour vaquer à la prière et au ministère de la parole. Les anciens ont besoin des diacres qui servent de façon pratique et les diacres ont besoin des anciens qui dirigent spirituellement. » Fin de citation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on voit que Paul, quand il parle à Tite, dans une petite église, va leur parler d'abord des anciens qui doivent être nommés. Les diacres seront nommés par la suite comme aide des anciens pour vivre leur tâche principale. Donc les anciens, ils ont leur tâche principale de nourrir et conduire le troupeau. Et ils le font essentiellement par la prière et le service de la parole. Puis je me suis dit, mais est-ce que dans le Nouveau Testament, il y a des exemples de diacres ? Bon, il y a les sept, hein. Là, on a quand même déjà un exemple aussi avec Étienne et Philippe. Mais est-ce qu'il y a d'autres exemples de diacres dans le Nouveau Testament ? Alors, ce n'était pas tout facile. Alors, je me suis dit, je vais chercher quand même avec ce terme, diakonos. Comme ça, ça va nous aider à trouver ces éléments-là. Et donc là, j'ai trouvé quelques exemples. Mais il faut comprendre que les personnes que je vais vous nommer, ne sont pas des personnes qui sont forcément nommées diacres dans leur église. Mais ce sont des personnes qui ont agi en tant que serviteurs. Et ça va nous aider à comprendre un petit peu ce qu'est le rôle du diacre. C'est intéressant dans les évangiles, si on regarde déjà dans les évangiles, première mention de ceux qui servent, ce sont les anges qui servent ou qui diaconisent, si vous voulez, le Seigneur après le temps de tentation dans le désert. Des anges qui servent le Seigneur après son temps de tentation. Deuxième exemple, c'est la belle-mère de Pierre qui, une fois guérie, se met à diaconiser, se met à servir. Troisième exemple, c'est Jeanne, la femme de l'intendant Hérode, Suzanne et plusieurs autres diaconisaient de leur bien Jésus et les 12 disciples. Souvent, c'est traduit par servir ou assister, mais c'est toujours ce même terme qui est utilisé. Et un autre exemple, encore dans les évangiles, dans Luc 10, on voit que Marthe, demande au Seigneur s'il veut que sa sœur la laisse diaconiser toute seule. Rappelez, Marie, elle écoutait Jésus, Marthe, elle est en train de diaconiser, enfin, de servir. Et puis il dit, donc c'est un exemple de service. Et dans les épîtres, on trouve toute une série de personnes. On a un homme qui s'appelle Tychique, qui est appelé notre frère bien-aimé, fidèle diaconos du Seigneur, qui a accompagné Paul durant son voyage. Ou encore Épaphras, qui est présenté comme étant pour Colosse un fidèle diaconos, ou ministre, dans certaines traductions. Donc vous voyez, il y a des sources de traductions qui peuvent arriver. Ministre du Christ, mais là c'est serviteur de Christ, ou diacre de Christ. Ou encore dans Romains 15, on voit Phoebé que Paul nomme diaconos ou servante de l'église de Sancheré, qui est venu en aide à beaucoup et à Paul lui-même. Ou encore Archip, à qui Paul dit de prendre garde à la diaconie qu'il a reçue du Seigneur. Ou encore Onésiphore dans 1 Timothée 1, 16 à 18, qui nous est présenté comme un homme qui diaconise. Et il est question dans sa diaconie de consoler des personnes et de rendre des services. Et nous en avons encore un qui s'appelle Onésime dans Philippiens 1, qui est présenté comme quelqu'un qui diaconise auprès de Paul. Donc en étudiant ce que nous pouvons savoir de ces personnes qui sont en lien avec le service, nous trouvons des indices de ce qui peut se vivre en fait dans le diaconat. Mais nous nous rendons aussi compte que ce sont plus des principes que des tâches concrètes que l'on peut en retirer. Parce que les tâches sont dépendantes des contextes. Si je prends que le dernier exemple d'Onésime, Paul dit qu'il l'a servi, mais il n'a pas dit comment. Parce que ça dépend du contexte, et on est dans un autre contexte. Donc j'aimerais vous donner ici un résumé qu'un auteur a ressorti après avoir pris le temps d'étudier les textes bibliques en parlant des diacres. Il y a 8 points, donc on va les voir ensemble. C'est un résumé, un condensé, ok? Donc premièrement, les diacres sont toujours associés aux anciens. Et tout comme eux, ils occupent un poste officiellement reconnu dans l'église locale. Donc là, les deux textes principaux, c'est Philippiens et 1 Timothée. Ils sont toujours associés aux anciens et tout comme eux, ils occupent un poste officiellement reconnu dans l'église locale. Deuxièmement, les diacres sont soumis aux anciens comme les termes épiscopos et diaconos eux-mêmes l'indiquent. C'est deux termes qu'on a vus ensemble, donc je vous les ai utilisés. Troisièmement, les diacres doivent remplir certains critères bibliques semblables à ceux des anciens pour se qualifier. Donc ça, c'est 1 Timothée 3 qui nous le donne. Quatrièmement, les critères de qualification et l'aptitude au poste de diacre doivent être évalués publiquement, comme c'est le cas pour les anciens. Cinquièmement, à la différence des anciens, les diacres n'ont pas à être capables d'enseigner la saine doctrine et de réfuter les faux docteurs. À la différence des anciens, les diacres n'ont pas à être capables d'enseigner la doctrine et de réfuter les faux docteurs. Il n'est pas donné aux diacres une liste précise de leurs responsabilités, ce sont les anciens qui les déterminent. Ça, c'était le sixième point. Septième point, en conséquence à leur service rendu, les diacres peuvent acquérir le profond respect de la communauté et voir leur relation de foi en Jésus-Christ grandement renforcée et approfondie. Et huitièmement, les diacres sont des assistants, comme l'indique le mot grec « diakonoi » dans le contexte de 1 Timothée 3. Voilà un résumé par rapport à ces diacres. Là, c'est des, centaines de pages qui sont derrière. Si ça vous intéresse, je peux vous donner les références. Vous allez me dire, ouais, mais t'as oublié le verset 11. Bon, eh bien, nous allons y venir maintenant. C'est le quatrième point, les femmes. Lisons le verset 11. « Que les femmes de même soient respectables, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. » Comme j'ai dit, ce texte a fait couler beaucoup d'encre. Et je ne prétends pas vous donner tous les éclairages possibles, mais quelques réflexions qui me semblent utiles après avoir pris un certain temps pour travailler ce texte. Alors, avant de nous demander de quelle femme il s'agit dans ce texte, il me semble utile de comprendre quelque chose. Si le rôle de diacre est le service de compassion et d'assister les anciens, si la structure de l'Église ne met pas les diacres dans une position de direction ou d'enseignement avec autorité sur les hommes, que Paul a défini dans 1 Timothée 2, on l'a vu ensemble, il n'y a bibliquement pas d'objection à ce qu'une femme soit diacre. Ça, c'est une chose qu'on peut déjà avoir en tête. Dans le cadre de notre Église ici, notre Constitution indique actuellement que les diacres font partie du Conseil d'Église, qui est l'organe de direction de l'Église. Ce qui fait qu'actuellement, sous cette structure, nous n'avons pas de femmes diacres et nous n'en aurons pas. Ce qui ne signifie pas que les femmes ne peuvent pas s'engager et ce qui ne signifie pas non plus que cette structure devra toujours rester comme cela. Mais c'est pour expliquer la situation actuelle. Donc venons-en maintenant à ce fameux verset 11. De qui parle-t-on ? Le terme utilisé ici pour femme ne permet pas de clairement dire s'il s'agit de la femme des femmes diacres ou de l'épouse des diacres. C'est un peu ça l'enjeu ici. Est-ce qu'on parle de femmes diacres ou des épouses de diacres desquelles Paul est en train de parler dans le verset précédent et dans le verset suivant ? Donc dans le contexte de 1 Timothée, nous avons le chapitre 2 qui utilise le terme « femme » qu'on a ici et ça concerne toutes les femmes. Ça, c'est dans le chapitre 2 de Timothée. Dans le chapitre 3, nous voyons dans 1 Timothée 3, 2, le texte où il est dit que l'évêque soit mari d'une seule femme. C'est le même mot qui est utilisé. Là, c'est clairement l'épouse. C'est le même terme utilisé aussi dans 1 Timothée 3, 12, où il est dit que le diacre soit mari d'une seule femme. C'est le même terme qui, ici, correspond à l'épouse. On avait aussi vu que les veuves devaient être femmes d'un seul mari. Hein, dans 1 Timothée 5, 9, le terme femme, qui est là clairement épouse, est encore le même dans ce lieu-là. Mais c'est vrai que ce terme lui-même, il y a toutes sortes d'études qui sont faites, à mon avis, ne peut pas vraiment faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Mais le contexte direct, dans 1 Timothée 3, et l'omission de dire que c'est une femme diacre, parce que si Paul avait écrit, verset 11, que les femmes diacres d'eux-mêmes, bon voilà, il n'y aurait pas de discussion. Ce terme n'est pas là. Donc le fait que le terme n'est pas là, et que le contexte est lié à des hommes qui ont des épouses, ça me fait plutôt pencher sur le fait que le verset 11 parle de l'épouse des diacres. Et je vais vous donner deux autres arguments encore. Deuxième chose qui me fait pencher vers ce point de vue est que la femme diacre n'aurait que 4 critères à remplir, alors que l'homme diacre en aurait 8. On a vu ça avant, qu'il y avait 8 critères. Je ne vois pas pourquoi une femme qui aurait le même ministère qu'un homme aurait moins de critères à remplir. Alors que si c'est l'épouse du diacre, là, ça s'explique. Parce qu'elle n'a pas les mêmes responsabilités. Et troisième élément est le fait que Paul n'a pas parlé des épouses des évêques. Alors ça, c'est certains le retournent, moi je le retourne dans l'autre sens, l'argument ici. C'est pour la simple raison que les épouses ne peuvent pas exercer le même ministère que leur mari évêque. Parce que clairement, une femme ne peut pas enseigner et prendre autorité et diriger comme son mari évêque. Donc il n'y a pas besoin de donner des informations par rapport à son rôle dans ce cas-là. Par contre, pour le diaconat, le conjoint est souvent et généralement directement impliqué et investi. Et souvent, c'est des situations où il y a de l'aide à donner, il y a des informations qui sont données qui peuvent être très sensibles et qui sont vécues ensemble. Et là, il est important d'avoir ces quelques critères qui sont là. Donc en résumé, tout en respectant d'autres points de vue et n'excluant pas les femmes diacres, j'y viens tout à l'heure, le verset 11 parle des épouses des diacres, car premièrement, le contexte immédiat utilise ce terme dans ce sens, sans préciser femme diacre, hein, le contexte immédiat. Deuxièmement, la différence des critères que l'on aurait entre homme et femme diacre. Et troisièmement, les épouses de diacre sont pleinement impliquées dans le ministère de leur mari, dans le sens active comme lui. Donc pour une meilleure cohérence, je préfère voir ici l'épouse du diacre qui est appelée à avoir les quatre premiers critères qui sont répétés ici, tout en disant hein, que selon la structure de l'Église où les diacres n'ont pas autorité de direction dans l'Église, une femme, pour moi, peut être diacre. Mais alors, ce sont les critères du diacre qu'elle doit suivre. Et logiquement, si elle est mariée, ben, le verset 11 concerne son mari. Il y a un élément qui me fait encore réfléchir, donc je ne suis pas au bout, mais on va continuer ensemble, en église aussi. C'est pourquoi en acte 6, alors que c'est un service pour des dames seules, il n'y a pas de femme qui est nommée. Et ne venez pas me parler de contexte culturel, parce que quand Dieu pose des bases pour une nouvelle étape historique, comme d'ailleurs en tout temps, Dieu n'est pas dépendant des coutumes ou de ce que pensent les gens de l'époque. Donc pour moi, la question reste. Là, je n'ai pas une réponse claire pour l'instant. Pourquoi il a choisi que des hommes, alors qu'en fait, c'était pour s'occuper des veuves qui n'avaient rien, donc étaient seules. Donc voilà l'état des réflexions actuelles. J'espère qu'elles pourront alimenter notre réflexion d'Église et nous faire progresser dans une pensée commune. C'est un sujet qu'on n'a encore pas beaucoup parlé ensemble et je pense que ça vaudra la peine de le faire. Nous arrivons à la fin du texte, nous trouvons une promesse. Le verset 13 est fabuleux. Si pour l'évêque, il était dit qu'il désire une belle activité, ici pour le diacre, il y a deux grandes promesses. Le verset 13 nous dit ceci, vous pouvez regarder avec moi. « Car ceux qui ont bien exercé le diaconat s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. » Or, le rang honorable, ce n'est pas ce que le diacre cherche, c'est ce que Dieu lui réserve. Okay ? Lui, ce qu'il cherche, c'est l'humilité. Avec ce texte de 1 Pierre 5, 6 qu'il a en tête, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en temps voulu. » Et cela peut encourager des diacres dans les moments où il est tout seul, personne ne voit ce qu'il fait, il transpire, il est stressé, mais il sait que le Christ le voit. Et d'une manière ou d'une autre, il prend ce qu'il vit et il le rend honorable, déjà face à lui-même et face à l'Église. Et vous savez quoi? Il va vivre ce que Jésus dit en Luc 12, 37. Luc 12, 37, j'aime bien ce texte. Il est dit « Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillants. En vérité, je vous le dis, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les diaconiser, pour les servir. » C'est beau ça. C'est quelque part le Seigneur lui-même qui va servir ceux qui ont servi. Donc c'est la foi en Christ qui grandira car il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Il y a une assurance qu'on peut recevoir dans le service. Et en fait, vous ne pouvez que le comprendre si vous le vivez. Si vous n'avez jamais vécu de service gratuit que vous donnez de tout votre cœur, etc., selon Dieu, vous ne pouvez pas comprendre ça. Mais celui qui vit ça, il a une foi qui grandit. Je ne peux pas vous l'expliquer, c'est une réalité. Quand on vit de cette manière, on donne au Seigneur sans compter. On dit, c'est pour lui, je suis prêt à faire des sacrifices pour lui, pas pour que les gens voient, etc. Notre foi grandit. On voit justement son œuvre. Et de plus, l'Église est appelée à avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi nous. C'est 1 Thessaloniciens 5, 12 à 13 qui nous dit « Nous vous demandons, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez pour eux la plus haute estime avec amour à cause de leur œuvre. » Et ça, ça correspond à tous ceux qui dirigent l'Église, soyez en paix entre vous. Alors, en conclusion, rappelons-nous que diakonos, c'est premièrement un serviteur et que Jésus-Christ s'est fait serviteur pour venir nous sauver. Les critères de la Bible, que la Bible nous donne sont uniquement dans 1 Timothée 3 pour les diacres et sont en lien avec le caractère, premièrement. Ça n'enlève pas l'importance des dons pour la tâche à accomplir, c'est vrai, mais ce n'est pas la priorité dans la vie de la personne. Et la priorité dans la vie d'un diacre, mais vous verrez, c'est la même que dans la vie d'un chrétien, c'est l'intimité avec Dieu. Plus le Christ vit en nous, plus nous allons vivre les critères qui sont donnés ici dans la Bible, au niveau du diacre. Donc prions pour que dans la liberté que la parole de Dieu nous donne, une grande liberté par rapport au diaconat, il n'y a pas de tâche spécifique qui est mise dans la Bible, mais que dans cette liberté, Dieu nous donne la grâce, ici à l'église à Neuchâtel aussi, d'avoir enfin des diacres qui vivent selon la parole et qui sont nommés officiellement dans l'église. C'est vraiment ma prière, tout en étant déjà très reconnaissant pour ceux qui vivent déjà le diaconat selon le cœur du service. Et j'aimerais lire un dernier texte qui va aussi nous stimuler, nous encourager et en même temps nous interpeller. Ça se trouve dans 1 Pierre 4, qui nous parle justement du service de la parole et du service pratique. Il est dit ceci, et écoutez bien, ça vous concerne, parce qu'il y a un mot que je vais lire, c'est écrit « chacun ». Alors quand je dis « chacun », ben, tout le monde est concerné, on est d'accord. Alors écoutez ce qui est dit. « Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres en bon intendant de la grâce si diverse de Dieu. Si quelqu'un parle, que ce soit selon les oracles de Dieu, si quelqu'un sert, que ce soit par la force que Dieu lui accorde, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Et nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire merci parce que ta parole nous enseigne. Merci parce que ta parole nous permet de nous rendre compte que c'est toi qui bâtis ton Église. Et dans cette Église, tu as placé des évêques qui sont là pour nourrir de ta parole, pour prier pour que chacun puisse grandir et que l'évêque lui-même puisse rester fidèle et grandir. Et tu veux aussi placer des diacres qui soulage le travail des évêques, qui pense aux aspects pratiques, qui cherche l'unité de l'Église et qui est attentif à ce que chacun vit dans l'Église, comme tout le monde est appelé à l'aide d'ailleurs. J'aimerais, Seigneur, te prier de nous aider à saisir ce que tu nous enseignes. Tu vois que c'est des choses que nous n'avons pas beaucoup vues encore ici dans l'Église et j'aimerais te prier de nous aider à grandir dans cette connaissance. À grandir aussi non seulement dans la connaissance, mais dans la vie pratique, dans l'Église. Que nous puissions, Seigneur, reconnaître aussi ceux que tu as placés ici, dans le service, que tu puisses aussi permettre que des gens puissent aussi puissent sortir de la nuit quelque part et manifester dans la pleine lumière les dons que tu leur donnes, que tu veux mettre au service de l'Église. Je prie de nous guider dans toutes nos réflexions, de manière à ce que nous puissions te glorifier. De manière, Seigneur, non pas à ce que nous mettions des personnes en avant, que nous cherchions à faire des activités. Non, Seigneur, de manière à ce que ta parole puisse continuer à être prêchée fidèlement, de manière à ce que la prédication soit utilisée par toi pour le salut de beaucoup, puisque c'est le moyen que tu utilises pour sauver. Éternel, nous te prions de nous guider, de nous donner d'être focalisés, et je te prie particulièrement ici aussi pour le collège d'anciens, afin que nous soyons dirigés, guidés, nous avons besoin de ta sagesse, et que tu nous aides aussi à mettre toujours les bonnes priorités. Nous pouvons te demander pardon pour les fois où nous avons mis trop de temps pour des choses qui sont de la diaconie, au lieu de le mettre pour ta parole. Sois loué et béni, dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez entendre d'autres prédications ou profiter de ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.